France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Avouez-le, hein, on est tous pareils cet après-midi, sinon vous le ferez ce soir de toute façon. Vous allez compter les cadeaux sur la table de la salle à manger, vous allez vous retourner vers votre conjoint ou votre conjointe. T'as pensé au bouquin pour ta sœur ? Et en général, la réponse c'est « j'ai pas eu le temps » qui se traduit par « tu veux pas plutôt t'en occuper, moi je sais pas quoi lui prendre ». N'importe quel autre jour, flâner dans une librairie c'est plutôt très sympa, le 24 décembre ça pèse une tonne. Ce soir, nous allons donc vous faire gagner du temps pour le cadeau de la frangine. Et je pense aussi parce que hélas, cette saison à ce que vous pourrez cliquer si vous êtes positif et que vous devez passer les prochains jours isolés avec un ou deux bons bouquins, ça passe quand même tellement mieux. Au 18-20, on embrasse au passage notre amie Clémentine. Bref, est-ce que je dois me ruer sur les bandeaux rouges, les prix littéraires ou est-ce la solution de facilité? Et si je trouvais plutôt un vieux classique, toujours efficace, est-ce qu'elle aime les polars, un livre de voyage, pourquoi pas, puisqu'on bouge à peine en ce moment, une BD? Vous avez une idée mais vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, vous aimez l'auteur, vous ne savez plus quel titre choisir, vous pensez à quelque chose mais est-ce que ça marche vraiment pour une jeune fille, vous imaginez un polar, mais il y en a tellement. À vous de jouer pour essayer de nous guider, à vous de jouer, à nous de jouer aussi pour vous donner des suggestions et partager aussi les coups de cœur des lectures des invités du Téléphone Sonne. Ça va être joyeux, espérons-le, c'est le Téléphone Sonne. En tout cas, soyez les bienvenus. Bonsoir.
Le Téléphone Sonne. 01 45 24 7000.
Et Jennifer, c'est vous la première. Bonsoir Jennifer, bienvenue.
Bonsoir et merci. Donc je tenais effectivement à partager un gros coup de cœur qui est le livre « Nous rêvions juste de liberté » d'Henri Lovenbrook. Donc il s'agit d'un road movie initiatique à moto à travers les États-Unis avec une bande de jeunes qui partent découvrir un peu la vie. Donc c'est vraiment d'une puissance peu commune et on le quitte vraiment à regret avec les yeux pleins de larmes. Voilà, donc le style d'Henri Lovenbrook dans ce livre est un style parlé, sans fioritures, brut, direct, à l'image finalement du héros Hugo et de ses amis. Et dans ce livre, Henri Lovenbrook dresse une ode à l'amitié belle et pure, de celle qui transcende tout, mais malheureusement peut-être jusqu'à l'aveuglement, et il va en payer les frais. C'est un livre que je conseille d'autant plus que l'art de la chute est compliqué. Uh-huh. Et puis en l'occurrence, la chute est magistrale, elle est bouleversante, elle est complètement inattendue.
Ah, ça donne envie quand vous teasez bien la chute comme ça. Merci beaucoup Jennifer, vous faites ça très bien.
Voilà.
Et est-ce que vous l'avez offert autour de vous? Qu'est-ce qu'on a dit?
Alors je l'ai offert à deux personnes, je l'ai aussi conseillé à énormément de monde et vraiment les retours sont unanimes et je vous ferai même la confidence que mon mari n'est pas du tout lecteur et il a beaucoup aimé ce livre, donc j'aime à croire qu'il plaira au plus grand nombre.
Ah ben écoutez, si votre mari est le maître étalon, on va dire, de ceux qui n'aiment pas la lecture, eh ben c'est tant mieux. Merci beaucoup. Merci de cette suggestion pour en discuter tous ensemble autour de la table. Des suggestions, les vôtres, les nôtres et celles que vous voulez. Nathalie Ries est avec nous. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Vous êtes libraire. Votre librairie s'appelle Mots en marge. Elle est à la Garenne Colombes. Vous présidez également le prix des libraires. Ilana Moryoussef est avec nous. Bonsoir Ilana.
Bonsoir.
J'allais dire que vous êtes celle qui lisait le plus peut-être dans les couloirs de France Inter. Pas très loin, suivie par Amélie Perrier.
Bonsoir. Bonsoir.
En tout cas, c'est votre travail. Vous êtes chef adjointe du service culture. Et on va revenir ensemble avec vous, si vous le voulez bien, également sur ce que vous nous avez déjà proposé depuis presque un mois dans le calendrier de l'Avent pour nos auditeurs, avec des choix qui sont très éclectiques. Vraiment, Nathalie Ries, vous connaissiez ce livre que nous a suggéré Jennifer ou pas?
Alors oui, j'en avais entendu parler, effectivement. Et je crois qu'il a eu un petit succès. Alors ce livre, en fait, il me fait penser à un autre livre qui est aussi un road movie absolument délicieux à offrir, qui est Loin de Alexis Michalik. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Non.
Absolument formidable, enfin, frère.
Vous avez le droit de dire non. Non. Vous avez vu qu'autour de moi, elles font non avec la tête, mais elles n'osent pas dire non.
Mais non, on ne pourrait pas le dire au micro.
Je vous en prie, continuez, Nathalie.
Voilà, c'est un frère et une sœur qui vont partir à la recherche de leur père, et ça va être des pérégrinations qui vont nous emmener jusqu'en Turquie. C'est complètement loufoque, c'est absolument jouissif, c'est en livre de poche. C'est un petit livre à offrir. Et Alexis Michalik, on le connaît aussi, les metteurs en scène, réalisateurs. Voilà, formidable. Et ce que j'adore aussi, c'est quand les lecteurs viennent en librairie. Et parce que finalement, c'est les lecteurs et les clients qui sont les meilleurs conseilleurs, presque.
C'est eux qui font les petites fiches sur les bouquins. Au final, moi, justement, je m'interrogeais pour savoir si, quand on ne sait pas, on se rue vers les bandeaux rouges, comme je le disais en introduction. Comme ça, au moins, on sait que c'est une valeur sûre. Ou finalement, pas tant que ça, en fait. Comment ça marche ?
Pas tant que ça, ouais. Quand on a le plaisir de venir en librairie indépendante, pas tant que ça, parce qu'on se rue sur le bandeau rouge en demandant au libraire « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?»
Ouais, ouais.
On a une vraie responsabilité sur le bandeau rouge, nous, libraires indépendants. Voilà.
Mais en même temps, j'ai vu que vous aviez mis Clara Dupont-Monod, on est bien content dans votre liste des préférés. Bandeau rouge, pour s'adapter, c'était le prix féminin. Donc, il y en a certains qui
sont...
Et Goncourt des lycéens, absolument. Ouais, donc, il y a des bandeaux rouges.
Il y a des bandeaux rouges tout à fait validés, hein. Le bandeau rouge, ça fait beaucoup vendre, ça attire l'attention et ça peut très bien être un très bon livre, et heureusement.
Alors, puisqu'il y a plein de gens au Standard qui veulent partager avec nous leur choix, on va y aller et retrouver Eric qui est en Loire-Atlantique. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir Fabienne et bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de vous entendre.
Nous aussi, Eric, on vous écoute.
Merci. Et moi, je pensais à des livres pour se marrer, quoi. Et dans les choses qui me font le plus rire, Terry Pratchett, l'intégrale, mais surtout aussi Tom Sharp. Tom Sharp, qui est pas tellement connu en France, qui est un auteur anglais qui est mort il y a une quinzaine d'années.
Vous me rassurez, parce que j'en avais jamais entendu parler. Subitement, vous me rassurez.
Qui est totalement délirant. Sa série des Wilt, les histoires d'un prof de techno dans un lycée technique du nord de l'Angleterre, avec des histoires complètement abracadabrantes, délirante, insupportable. Lui, il est complètement désabusé, il subit sa vie, il se retrouve dans des histoires totalement folles, c'est juste génial. Ou bien Mêlée ouverte au Zululand, qui est une critique féroce de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Ou bien Porterhouse, qui se moque des collèges anglais, genre Cambridge, Oxford et compagnie, là. Le tout avec un humour mais en même temps très moraliste, hein, et très, très, c'est pas juste le truc gratuit, quoi. C'est une critique profonde, mais drôle, et en même temps, avec de l'espoir et aussi des abusés, des travers de la société.
Bah formidable, et merci de nous le faire découvrir, parce que moi j'avoue humblement que je ne connaissais pas, mais vous aussi en revanche, Nathalie Iris.
Oui, je connaissais, et justement je me demandais si Eric avait eu ce conseil par un libraire, ou comment il avait découvert ce livre. Cet auteur, d'ailleurs.
Ça fait tellement longtemps que je ne sais plus. Je pense que je suis tombé comme ça au hasard. J'adore aller dans les librairies indépendantes à Nantes et je pose des questions. Je parlais avec les libraires et j'ai dû tomber dessus comme ça.
Eh ben, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait partager ça. On va venir à quelque chose un peu délirante aussi en route avec vous, Amélie Perrier. Mais puisqu'on est là-dessus, j'ai juste une question pour vous quand même, Nathalie Iris. C'est vrai qu'il y a eu un... Vous avez vécu des confinements. C'était très paradoxal, les confinements pour vous, au fond, les libraires, parce que certes, au début, c'était difficile. Vous avez dû fermer, et puis on s'est rendu compte jusqu'à quel point vous étiez effectivement essentiel, et on a l'impression qu'il y a eu un vrai retour des gens vers le bouquin. Est-ce que ça, c'est toujours valable aujourd'hui ? Est-ce que vraiment, là, pour ce Noël-là, on le sent réellement ou pas ?
Oui, je pense que c'est vraiment toujours valable aujourd'hui. Alors, avec le petit bémol que, effectivement, les gens ont moins le temps, puisqu'ils ont quand même repris une activité, ils doivent aller au boulot. Mais oui, le livre est... grâce au confinement quelque part, a été bien mis en avant, et ça fait très plaisir. Et non seulement le livre, mais aussi la librairie, le commerce, le commerce de proximité.
Et c'est important aussi de lire. On parlait de choses un peu drôles. Ilana, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, je voulais poser une autre question à Nathalie, puisque on est en pleine période de fête et que les gens viennent à vous. Je voudrais savoir comment ça se passe quand vous conseiller un livre. C'est-à-dire, les gens entrent et quelquefois, ils ont des desiderata, c'est assez vague, on sait pas trop. Comment vous vous y prenez? Qu'est-ce qu'ils vous demandent?
Alors, c'est vrai que, finalement, on a 10 secondes pour essayer d'identifier le désir du lecteur. Alors, déjà, il faut savoir aussi qu'en général, nos clients, finalement, on les connaît, ils nous connaissent. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que dans une librairie, on est plusieurs libraires à travailler. Et souvent, ils disent « Ah bah moi, ma libraire, c'est Nathalie. Ah bah non, moi, c'est plutôt Colline. » Voilà. On a un peu
ça
son
comme coiffeur,
libraire
alors.
Comme on a son coiffeur. Quoi. Et on n'en changerait pas. Après, c'est vrai qu'on finit par connaître les goûts des gens. Mais surtout, j'ai envie de dire aussi aux auditeurs, ceux qui n'ont pas l'habitude de venir en librairie, mais venez en librairie parce qu'on va vous aider.
On et est ben,
On est là pour vous aider, pas pour vous dire que vous n'y connaissez rien.
Et ben justement, moi j'ai cette question là qui vient sur Twitter et qui dit ma mère qui adorerait lire beaucoup plus est très paniquée à l'idée d'entrer dans une librairie. Elle ne sait jamais vraiment quoi choisir. C'est pas une habitude familiale. Comment lui donner le goût de l'échange avec le libraire? C'est parfois intimidant en fait d'entrer dans une librairie. C'est intimidant aussi parce qu'il y a plein de gens comme ceux que vous venez d'écrire qui baignent là-dedans comme un poisson dans l'eau, qui appellent les libraires par leur prénom, qui connaissent les auteurs. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Et il faut pouvoir y aller parfois pour certains. Il faut le faire, le pas.
Oui, c'est vrai, mais après tout, quand on rentre dans un magasin de, je sais pas, de fringues, eh ben, il y a plein de fringues et on sait pas non plus ce qu'on va prendre. Et puis finalement, on trouve. Eh ben, voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir cette démarche-là. De se dire, bon, on va choisir un livre. C'est pas grave, on n'y connaît rien, mais bon, bah, la couverture est belle, eh ben, on va regarder ce que c'est. Voilà, c'est vraiment comme dans une pâtisserie. Il y a plein de gâteaux qu'on connaît pas. Mmh. Ben, on va les essayer. Et puis, le pâtissier est là pour vous aider. Et puis, nous, le libraire, on est là pour vous aider aussi.
Amélie Perrier, je me tourne vers vous parce que, comme notre ami auditeur tout à l'heure nous parlait d'un roman qui était drôle.
Oui, on a besoin en ce moment de livres qui font rire.
Des livres qui font rire, mais qui peuvent être aussi grinçants. Je vous ai entendu chroniquer Fab Caro il n'y a pas très longtemps.
Absolument. Le
et
maître
il faut vraiment
de
en profiter pour cette saison-là, si je puis dire.
Oui, ça s'appelle Moon River. C'est son dernier album. C'est de la BD. Hein, et Fab Caro, c'est un maître de l'absurde. Là, c'est une histoire absolument loufoque qui se passe dans le Hollywood des années 50. Une actrice qui est en train de tourner un western se réveille un matin, puis elle a un dessin obscène, je vous dis pas ce que c'est, parce que bon, il y a des enfants qui nous écoutent, sur la joue. Et donc, le détective va mener l'enquête. Il est pas du tout perspicace, il voit rien du tout.
C'est un sexe d'homme sur la joue, Amélie, mais sérieusement.
C'est pas dit comme ça dans
la
BD.
Pas dit comme
mais
ça,
bref.
Bien compris.
Et donc, voilà, c'est une enquête un peu loufoque, avec des anachronismes, avec de l'humour absurde. On retrouve un cheval debout sur un lit à un moment. Bon, voilà. Il faut se laisser porter par ça, il faut se laisser rire par ça. Vraiment, c'est une bulle d'air et ça fait beaucoup de bien de s'échapper un petit peu. Il y a des références aussi à l'actualité. Ouais. Hein. À un moment, ça parle un peu des gilets jaunes. À un moment, ça parle un peu de la Covid. Mais c'est tellement drôle. Moi, ça fait vraiment partie de mes coups de cœur. Donc, Moon River de Fab Caro.
Fab Caro, je crois que c'est l'auteur de BD que j'ai le plus offert. Et il y a aussi des romans, il faut le dire, Nathalie Risin, de Fab Caro, qui sont tout aussi délirants que les BD.
Comme Le Discours, par exemple.
Exactement. C'est génial.
C'est l'histoire, effectivement, d'un frère qui doit écrire un discours pour le mariage de sa sœur. Alors, évidemment, ça part dans des délires pas possibles. C'est vraiment drôle et vraiment fin.
Ilana, vous n'êtes pas en reste. Donnez-nous l'un de vos choix, l'un de vos coups de cœur et on retourne au standard juste après.
Alors voilà, ça c'est un choix pour à la fois les enfants et les parents, pour les petites filles et les petits garçons. En fait, c'est un livre que je trouve très beau, très intelligent et l'idée, elle est simple en apparence. En fait, elle consiste à transformer dans les contes pour enfants qu'on connaît, les classiques, les L par les il et inversement. C'est-à-dire, voilà, prince et princesse sont inversés. Par exemple, vous avez Hansel et Gretel, et bien ça devient Gretel et Hansel, et c'est elle qui a le premier rôle, en quelque sorte. La princesse au petit pois, bah, c'est le prince au petit pois. Blanche-Neige, c'est Blanc-Flocon. Et en fait, oui, c'est un petit peu déstabilisant, mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que c'est fait pour inciter les enfants à qui on raconte des histoires, ou alors à qui on qui les lisent eux-mêmes, à réfléchir sur le rôle qu'on assigne, sans même s'en rendre compte, aux petites filles, aux petits garçons. Donc en fait, c'est une façon de dire, bah, vous les petites filles, bah, vous pouvez aussi traverser la forêt, vous pouvez aussi conquérir le monde. Et les petits garçons, eh bien, ils peuvent aussi montrer leur sensibilité.
Mais est-ce que le bel au bois dormant se fait embrasser par une fille alors?
Eh bien oui, absolument.
Ah ben, voilà. Non mais attendez, il y a intérêt.
Et donc ça c'est, pardon, il faut le dire quand même, aux éditions Stock, avec une préface de Marie Dariussec, et j'ai oublié le nom des deux auteurs qui ont eu cette idée. Ce sont deux Anglais.
Carrie Franzmann, chez Stock, c'est l'une des, c'est l'autrice. J'avoue que j'ai pas le deuxième nom.
Oui, moi non plus.
Enfin, je l'ai là, mais j'ai voilà. Amélie va le chercher.
Le bel au bois dormant. Enfin, c'est l'essentiel.
Le temps qu'on écoute Cyprien. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir. Merci beaucoup de prendre mon appel. Alors je vous appelle parce que je fais toujours le choix de la facilité à Noël et ça ne marche pas tous les ans. Et là, j'ai trouvé un super bouquin. Au départ, c'était un compte Instagram que je suivais qui s'appelle WikiHow Museum. Ça détourne des illustrations de WikiHow. Donc, j'en ai acheté 5, un pour chaque membre de ma famille. Okay. Voilà, bon, je vais devoir justifier ça. Alors, vous parliez de Fab Caro. C'est un humour encore plus grinçant, encore plus cynique, qui détourne des images qu'on voit en permanence, et ils sont d'un talent fou. C'est Maxime Morin et Marguerite Hennebel, qui est illustratrice, Maxime Morin, qui est du coup l'auteur-écrivain. Et vraiment, c'est super chouette. Moi, j'ai eu un coup de cœur. Donc je ne peux que le conseiller, et puis c'est hyper drôle. Quoi,
eh ben, merci beaucoup, merci vraiment, merci pour ce joli conseil. Nathalie Iris, on voit bien que les gens vont vers des choses qui peuvent être festives, qui vont nous sortir un peu tout ça. Je me demande, moi, si les habitudes de lecture ont changé, en fait, et si ça se voit aussi, si on s'intéresse peut-être plus à la marche du monde également, à des livres qui vont dans ce sens-là.
Alors oui, on s'intéresse aussi beaucoup à l'écologie. Alors je vais prendre, par exemple, la BD Le Monde sans fin de Jean Covici, qui est absolument totalement plébiscité et absolument totalement introuvable maintenant, parce qu'il est en rupture de stock, il va falloir attendre la mi-janvier pour le revoir. Mais oui, les gens s'intéressent beaucoup à l'avenir du monde. C'est peut-être ça aussi qui a changé. Ils veulent à la fois du léger, mais aussi s'interroger sur le sens, sur où on va, quoi. Puisqu'on est aussi dans le domaine de la BD, je pensais à la BD qui est parue déjà l'an dernier de Thomas Pesquet.
Qui a super bien marché.
Qui a super bien marché, voilà. Donc les gens sont aussi quand même beaucoup en quête de sens. Hein. Ils veulent rire, ils veulent trouver du sens, voilà.
Vous avez parlé de rupture de stock, je rebondis là-dessus quand même. Il y a un problème de stock, de matières premières, de papier qui fait reculer beaucoup de...
Oui, c'est-à-dire que
d'impression,
en fait, oui, surtout sur des tirages, effectivement, quand il y a des retirages à faire, en période normale, ça prendrait peut-être une toute petite semaine, et là, ça va prendre 15 jours. Alors c'est vrai que c'est dommage, parce que entre guillemets, nous on rate des ventes, mais finalement c'est peut-être aussi l'occasion de proposer aux gens d'aller vers autre chose. Ça marche ou ça marche pas?
Écoutez, faut voir, ça dépend de l'âge de la personne à qui on veut l'offrir, en fait. Il y en a qui peuvent voir sur leur assiette ou au pied du sapin, tu l'auras dans 15 jours. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je voulais partager mon coup de cœur. Je sortais juste de chez mon libraire. Et je venais de partager le coup de cœur que j'avais eu il y a quelques semaines avec S'adapter de Clara Dupont-Menot.
Décidément, oui. tant mieux.
un vrai coup de cœur, une ode à la tolérance, à l'acceptation de la différence. Et vous parliez de voyage tout à l'heure, parce qu'on a besoin d'un petit peu voyager. On voyage dans les Cévennes avec des descriptions des Cévennes qui sont magnifiques.
Eh ben merci beaucoup de nous avoir fait partager cela. Il y a vraiment beaucoup de gens qui le mettent sur leur vraie liste, dont vous d'ailleurs, Nathalie.
Oui, et puis surtout, je trouve que c'est un livre qui s'adresse en fait à tous les publics, c'est-à-dire que il peut être lu par un jeune de 18 ans, comme il peut être lu par une personne qui a 98 ans. C'est un petit livre, pas gros, mais vraiment tout plein de sensibilité. Donc, il a tout pour plaire.
Eh ben écoutez, tant mieux s'il a tout pour plaire. Voilà une question sur franceinter.fr qui dit que on a bien remarqué que les mangas étaient en tête des ventes, notamment grâce au
Pass Culture.
Au Pass Culture, merci. Je cherchais, j'étais dans chèque emploi, mais non. du Pass Culture. Et cette auditrice qui nous demande comment on commence quand on connaît pas les mangas, alors qu'il va bien falloir qu'on se plonge dedans. Ça a l'air tellement important. On a l'impression qu'il y a quelque chose de très générationnel. Est-ce que vous savez par où on commence?
Alors oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de très générationnel. Ouais. C'est-à-dire que c'est plutôt les jeunes. Par où on commence?
Si je suis mon ado, en fait.
Moi, je conseillerais quand même, pour un ado adulte, enfin adulte, disons, qui n'a jamais lu un manga, je conseillerais quand même Taniguchi. Je ne sais pas si Ilana est d'accord.
Forcément, voilà. Je suis d'accord avec vous.
Taniguchi, c'est vraiment le maître du manga japonais. Il est mort il y a quelques années. Mais c'est notamment Le Gourmet Solitaire. Voilà. Et évidemment, la particularité du manga, c'est qu'on le lit entre guillemets, à l'envers. Donc c'est vrai qu'il faut prendre cette gymnastique qui au début n'est pas évidente. Et moi-même, qui suis pas d'une génération manga et qui ai dû m'y mettre, j'ai demandé en fait à ma jeune libraire, j'ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer comment on lit un manga?
Qu'est-ce qui est prescripteur en fait, généralement, Nathalie Iris, quand les gens viennent vers vous à la librairie, est-ce qu'on est comme à la grande époque, donnez-moi le livre que j'ai vu jeudi sur apostrophe, donc on fait pareil avec François Bunel, on fait pareil avec Le Masque et la Plume, ou est-ce que c'est un peu différent aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prescripteur?
On fait beaucoup avec François Bunel. Ouais. Ouais, François Bunel est extrêmement prescripteur. Et d'ailleurs, je le salue au passage parce que...
Nous aussi, et il est prescripteur pour moi aussi, d'ailleurs, honnêtement, assez régulièrement. Donc, mais oui, ça marche vraiment.
Ça marche vraiment. Ce qui marche vraiment aussi, c'est aussi la radio, hein, il faut le dire. Hein, vive la radio.
Mais tant mieux.
Vive la radio. Après, toujours appuyé en général, effectivement, par le... Appuyé ou non, mais enfin, souvent quand même par l'avis du libraire, on nous dit « Bon, alors j'ai entendu ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» un peu les journaux, un peu moins qu'avant, je pense, les journaux.
Ouais.
Et puis aussi les blogueurs, il y a pas mal de gens qui sont inscrits sur les
blogueurs. On voit bien, moi je la vois cette tendance, parce que j'en offre beaucoup, et j'en ai aussi reçu, on voit bien qu'il y a une tendance de roman graphique qui est extrêmement importante, et qui amène d'ailleurs peut-être un certain nombre de gens vers la grande littérature, parce qu'il y a plein de grands ouvrages qui ont été, j'allais dire, traduits, qui ont été, je sais pas comment on dit d'ailleurs,
adaptés,
voilà, ouais. Merci, oui, en roman graphique. Là aussi, c'est un vrai tournant, un vrai phénomène pour vous ou pas?
Oui, c'est en fait les romans graphiques, la BD en général, et c'est vrai que de plus en plus, on voit même des romans, même classiques, hein, je pense à Des souris et des hommes, qui a été adapté magnifiquement d'ailleurs.
La ferme des animaux.
La ferme des animaux, 1984, de plus en plus, quoi.
Et ça avait commencé il y a longtemps, même, je crois que les premiers, c'était Les Tardis, avec Céline, il y a eu toute une série comme ça qui était magnifique, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Après, c'est pas forcément les mêmes lecteurs, je trouve, les lecteurs de romans graphiques et les lecteurs de romans...
Roman tout court, hein. C'est comme tout ça qu'on court. Dit maintenant.
Peut-être que les romans tout court sont plus, entre guillemets, lus par des femmes, peut-être. Alors que les romans graphiques, je remarque un peu cette tendance.
Ilana, avant de retourner au standard, choix numéro 2.
Alors, le choix numéro 2, justement, c'est un roman graphique, mais qui n'est pas
une adaptation. Vous voyez comme cette émission est préparée.
qui n'est pas une adaptation d'un roman tout court, c'est-à-dire que c'est une œuvre complètement originale et où le dessin et le texte sont faits par la même personne, la même artiste, qui s'appelle Rosa Maria Undasuki, qui est une Vénézuélienne qui vit à Paris d'ailleurs, et elle a écrit un livre absolument magnifique, trop peu remarqué malheureusement à la rentrée, qui s'appelle « Ce que Frida m'a donné » aux éditions Zulma. Alors, Rosa Maria Undasuki, elle est passionnée par Frida Kahlo, mais elle est passionnée pas de façon commerciale, comme on peut voir aujourd'hui. Frida Kahlo a vraiment été déterminante dans son parcours d'artiste, et elle a fait donc ce magnifique roman graphique, où elle raconte à la fois ce qui se passait dans la maison de Frida Kahlo, qui était un haut lieu intellectuelle, etc. Et elle fait le parallèle avec sa propre maison au Venezuela, puisque sa famille a été dépossédée avec l'arrivée de, zut, son nom m'échappe, comment il s'appelle, qui est mort récemment.
Chavez.
Voilà, c'est ça.
Je vous en prie. Hugo.
Et donc, en fait, c'est un livre magnifique où on voit à la fois les tableaux qu'elle a fait, qu'elle a peint sur Frida Kahlo, et on a vraiment envie de rentrer dans chaque tableau, de se perdre dans les détails. Et en même temps, il y a ce récit. On voit vraiment que, oui, elle est artiste peintre, mais l'écriture n'est pas un territoire étranger pour elle.
C'est intéressant ce choix d'Ilana Mourioussef, Nathalie Iris. Quand on en a parlé cet après-midi, moi je me disais, c'est fou comme Frida Kahlo est redevenue à la mode dans toute la pop culture, en fait. Ça commence à la littérature, effectivement, il y a eu des romans graphiques, il y a énormément de choses autour de cette femme.
Oui, c'est vrai. Et aussi beaucoup de choses pour les enfants, pour la jeunesse, notamment des albums autour de Frida Kahlo. Je pense aussi à Anne-Claire Berest aussi, qui ont écrit, je crois que c'est Claire d'ailleurs, Claire qui a écrit sur Frida Kahlo. C'est vrai qu'une espèce d'engouement, parce que je pense que elle représente finalement peut-être une femme engagée, et que en ce moment, les femmes engagées, on en a besoin, on en a toujours eu besoin.
Et qu'on a cherché des modèles aussi, depuis la vague MeToo, etc. On a cherché des femmes à qui s'identifier. Et c'est incroyable comme Frida Kahlo est devenue quelqu'un d'important pour ça. Amélie, deuxième choix ?
Eh ben, c'est un choix pour les enfants. Oui. Le loup en slip. C'est le tome 6, Cache-noisette. Le loup en slip, vous savez, c'est un...
Je vois ce que c'est qu'un loup en slip. C'est un loup avec un slip.
Voilà. C'est une BD pour les enfants. mais franchement, quand on est adulte, là, j'ai relu les 6 tomes. Du coup, je me suis régalée. Vraiment, c'est un régal. C'est très drôle. C'est assez beau. Hein. Maya Naitoz qui fait les illustrations. Franchement, on rentre dans la forêt. C'est très, très chouette. Et là, dans Cache-noisette, eh bien, c'est un jeu de mots sur casse-noisette, évidemment, puisque le loup en slip se fait offrir à Noël un casse-noisette qui va s'animer en pleine nuit. Okay. En pleine nuit. Et c'est un hibou qui va emmener le loup dans la forêt interdite. Et là, on va découvrir comment sont produites les noisettes, puisque puisque ce sont les noisettes qu'on mange beaucoup à Noël dans le village du Loup. Ça parle des OGM, de la manière dont on produit ce qu'on mange et du prix de ce qu'on mange. Donc c'est pour les très petits, évidemment, mais c'est aussi une BD qui fait réfléchir, qui va faire poser des questions. Les enfants vont poser des questions aux parents, je pense, après cette BD. Et puis c'est aussi pour les parents, je pense que c'est très agréable de le lire avec son enfant, parce qu'il y a plein de jeux de mots aussi pour les grands et des références. Donc vraiment, c'est un gros coup de cœur, Le Loup en slip cache-noisette, le tome 6.
C'est publié chez
Dargo, c'est 9,99€, donc vous en achetez un ou six, voilà, c'est en fonction du budget.
Bonsoir Marie-Hélène.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi je voulais vous dire un peu la même chose par rapport à cette littérature pour enfants, que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas le droit de lire des livres pour enfants. Et moi je voulais vous parler d'un livre pour ados qui a été écrit par Flore Vesco, D'or et d'oreiller, D'or, D'OR. Et Flore Vesco, elle a déjà fait un autre roman comme ça, écrit un autre roman. C'est une adaptation du conte de La princesse au petit pois. Et vraiment, elle a une écriture magique. On rentre dans ce roman, comme on rentre dans un conte. Elle a des personnages féminins qui sont toujours très forts, très marqués. Une écriture fluide et on s'évade complètement. Il y a 2-3 ans, elle avait écrit L'étrange malaventure de Mirella. C'était une adaptation d'un conte, du conte du joueur de flûte de la ville d'Amelin. Et pareil, on rentre là-dedans et on s'évade. Et je voulais juste dire que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on doit pas aller au rayon des enfants et s'évader aussi par cette littérature-là.
Et absolument, merci beaucoup Marie-Hélène. Et Nathalie Iris, notre libraire, est totalement d'accord avec vous.
Oui, je suis totalement d'accord. Et moi souvent, d'ailleurs, je dis, quand vous choisissez un livre pour un enfant, il faut choisir avec l'enfant si l'enfant est là. Mais si l'enfant n'est pas là, choisissez un livre qui vous fait plaisir à vous, c'est-à-dire que vous aurez plaisir à raconter. C'est vraiment hyper important, parce que si l'enfant voit que vous avez plaisir à lire, ça va donner le goût de la lecture à cet enfant.
Et c'est vrai qu'il y a maintenant dans les rayonnages des rayons pour ados, pour jeunes ados, pour jeunes adultes, enfin il y a des rayonnages maintenant qui sont épatants par rapport à ce qu'on a pu connaître nous même quand on avait cet âge-là, Ilana.
Oui, et d'ailleurs
qui lève le doigt très gentiment.
D'ailleurs, je viens de lire, et c'est pour ça que j'en parle, le nouveau roman de Timothée de Fombelle, le deuxième volume de sa grande saga sur l'histoire de l'esclavage.
Vous l'avez en commun, ça, Nathalie Iris, parce que chacun m'a envoyé sa petite liste et vous l'avez vraiment.
C'est merveilleux. J'ai commencé un soir à 18h et j'ai terminé à 2h du matin. Vous ne le lâchez pas.
Vous faites un vrai beau métier quand même. Vous avez tellement de la chance. Mais c'est effectivement en commun sur vos deux listes à toutes les deux. Bonsoir Karine.
Bonsoir.
On vous écoute Karine.
Eh bien voilà, moi je voulais juste dire que mardi j'étais chez mon médecin pour lui demander conseil pour la troisième dose du vaccin Covid.
Ah bon?
Et puis pour autre chose, mais voilà, je prends rendez-vous, etc. Et puis on a fait un échange, je lui ai demandé conseil pour le vaccin et lui m'a demandé conseil en tant que professeur des écoles si j'avais quelque chose à lui recommander pour ses enfants qui ont, je crois, 4 et 8 ans. Et je lui ai vivement recommandé, chaudement recommandé un auteur que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Yvan Pommeau à l'école des loisirs. Et d'autant que les enfants de mon médecin sont passionnés de mythologie grecque. Donc je lui ai proposé des titres comme Ulysse, Orphée ou Thésée. Et puis aussi je lui ai proposé Avant la télé, un bijou de la littérature jeunesse qui raconte ce qui se passait dans les années 1950 avant la télé, après-guerre. Et je suis très touchée par la démarche de cet auteur et illustrateur. La lecture des images est pour moi très importante aussi. Et avec sa femme, je pense, qui est toujours coloriste de ses albums. Et je l'ai revu par hasard ce matin, mon médecin, qui m'a dit « Ah, merci beaucoup,
deuxième dose,
ça y est.
»
Non, c'était, j'ai pas encore mon rendez-vous pour la troisième dose. Mais en tout cas, lui m'a dit, merci beaucoup, ça y est, j'ai reçu les albums, ils sont magnifiques et ils seront au pied du sapin demain soir.
Eh ben, écoutez, formidable, merci beaucoup. On a bien retenu aussi, avant la télé, notamment, il n'y a pas que les libraires qui sont prescripteurs, c'est ça qui est une bonne nouvelle.
Oui, et c'est vraiment génial. Moi, j'adore quand les clients arrivent dans la librairie et puis se donnent les uns les autres des conseils. Et vraiment, ça, c'est absolument délicieux.
Est-ce qu'ils arrivent des fois, parce que moi je l'ai vu dans la librairie Patrimoine chez moi, je voudrais un livre, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, ni qui est l'auteur, mais la couverture est rouge.
Ah mais ça, plein de fois, ouais,
tout
plein
tout
de
le
fois.
Temps.
Mais en même temps, moi j'adore finalement cette espèce de chasse au trésor, parce que finalement c'est ça qu'on fait, hein. On cherche des trésors.
Ouais.
Et je voulais juste dire aussi que la mythologie est quelque chose qui intéresse beaucoup,
les enfants.
Ouais.
Très très jeunes d'ailleurs.
Très jeune, ouais. Il y a de splendides livres, le feuilleton de Thésée, par exemple, de Muriel Zax. Alors, je sais plus chez quel éditeur c'est, là, parce que je dis de mémoire. Mais voilà, il y a aussi toute la mythologie chez Casterman en BD, pour les primaires. Enfin, voilà, mythologie, allez-y.
Eh ben, écoutez, en avant pour la mythologie. Et bonsoir, Daniel.
Et bonsoir.
Vous êtes historien, donc vous peut-être que vous connaissez, vous, en mythologie.
J'ai fait des études d'histoire, mais je suis pas historien.
D'accord. Bon, on vous écoute.
Je suis un ancien éditeur et je lis énormément. Et je viens défendre un bouquin que j'ai adoré et qui s'appelle Une rose et un balai. C'est extraordinaire. C'est un balayeur dans les rues de Fribourg, en Suisse, qui est un pays que je n'apprécie guère. Mais lui, il me réconcilie avec la Suisse, et parce qu'il raconte son métier avec une poésie, un bonheur, un plaisir, qui vous font évidemment regarder autrement ce métier qui n'est pas le plus facile du monde.
Rappelez-nous comment s'appelle ce livre et qui l'édite et qui l'a écrit.
Une rose et un balai.
Okay.
L'auteur s'appelle Michel Simonet. Et il est édité par un petit éditeur de Seine-et-Marne, drôle de titre, alors ça s'appelle les éditions, avec un S, de la revue Conférence.
Eh ben écoutez, vous avez appris quelque chose.
En plus, le livre est très maîtrisé sur le plan purement dactylographique et orthographique, qui a été un grand souci dans mon métier, et... c'est vraiment formidable.
Eh ben, merci beaucoup, Daniel. Merci vraiment. Vous venez de découvrir un auteur, Nathalie Iris, et peut-être mettre une petite maison d'édition.
Alors, en fait, je crois que j'avais déjà entendu parler de ce tout petit livre. C'est un tout petit livre, hein, c'est ça, il me semble. Ouais. Et qui est un petit peu un livre de caisse, qui, à mon avis, c'est un livre de, voilà, une espèce de petite pépite de libraire, qui se balade.
Eh ben, écoutez,
ça, mais je l'ai pas lu.
Eh ben, merci, Daniel, pour La Rose et le Balai. Savez-vous qui vient de m'envoyer un texto? Eva Bétan. Chère Fabienne, dans les conseils, tu peux citer le livre 2021, demain ce sera vide, d'Hugo Lindenberg, un beau livre, un très joli succès. Je t'embrasse, Eva, et nous aussi, on l'embrasse, on l'oublie pas d'ailleurs, ce livre, effectivement, il est dans les petites listes de chacun. Voici une question de Thomas. Bonsoir Thomas.
Bonsoir, merci. Allez-y. De me prendre à l'antenne.
Allez-y.
Voilà, moi ça concerne le livre audio, je vais faire vite. J'ai eu beaucoup de mal à lire, j'ai lu 3 livres de Bernard Werber dans ma vie, et depuis que j'ai découvert les livres audio, ça me permet de passer moins de temps devant les écrans avant de dormir. Avant je regardais la télé, maintenant j'écoute des livres. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, si c'était une bonne idée de cadeau.
Qu'est-ce qu'on en pense des livres audio? Moi j'adore.
Moi je trouve ça formidable.
Moi, je suis hyper fan.
Et alors en plus il y a une véritable accélération, un grand travail des éditeurs, pratiquement toutes les maisons d'édition, si bien que maintenant en fait on trouve en livre audio les plus récentes nouveautés, c'est-à-dire que le laps de temps entre la parution du livre papier et la mise à disposition du livre audio, elle est vraiment c'est très très réduit. On trouve vraiment pratiquement en même temps.
Quelques mois, et en plus souvent c'est lu par l'auteur.
Ouais.
Alors là, c'est
de plus en plus.
De plus en plus. D'ailleurs, bon, merci l'auteur.
Moi, c'est devenu mon idéal de trajet en voiture. Les livres audio, c'est formidable. On peut comme ça aller jusqu'au fin fond de Gibraltar sans problème. On voit pas la route. Quelques conseils juste pour terminer. Il nous reste quelques minutes. Il y a encore un auditeur à venir, mais Amélie, pour qu'on refasse un tout petit peu le tour de ce calendrier de l'Avent que vous nous avez offert pour voir un peu. ce qui est achetable là maintenant tout de suite.
Un très bel album de Cosé. Cosé, vous savez, c'est un dessinateur de BD qui est le père du héros Jonathan. Là, c'est un livre de voyage, en fait. Ça s'appelle « À l'heure où les dieux dorment encore ». Et en fait, tout au long de ses voyages, où il repérait un peu les décors de ses BD, eh ben, il dessinait. Alors, c'est en 23 étapes. On passe par les Cyclades en Grèce, on passe par le Ladakh dans l'Himalaya. Il peint les décors, c'est magnifique. C'est un auteur suisse, donc il aime beaucoup la montagne, les paysages de montagne. Donc dans l'Himalaya, il se régale. Il peint aussi les visages, des aquarelles, comme ça, pris sur le vide, des scènes de village. C'est vraiment magnifique. C'est un très très bel album pour les gens qui aiment voyager. Voilà.
Eh ben, formidable.
À l'heure où les dieux dorment encore, de Cosé. Ah ben alors, pour ceux qui aiment beaucoup la musique, il y a The Lyrics de Paul McCartney.
Voilà, c'est à ça que je pensais en fait. Oui. Je vous emmenais vers les lyriques de McCartney. Ouais.
Paroles et souvenirs. Alors là, c'est deux tomes. Hein. C'est très épais, près de 1400 pages. C'est Mathieu Culon qui nous avait parlé de ça hein, dans le calendrier de l'Avent, où eh bien, il se raconte. C'est presque un livre autobiographique. Il y a les paroles des chansons. Et puis, il y a plein d'histoires autour de ces paroles. C'est là, par exemple, où on apprend que Paul McCartney a écrit Hey Jude pour rassurer le fils de John Lennon en plein divorce. Voilà, on apprend plein de choses. Le titre que j'adore, moi, Here, There and Everywhere, c'est le titre préféré de Paul McCartney et c'est une réponse aux Beach Boys. Voilà. Et donc, on apprend plein de choses. Donc, c'est The Lyrics de Paul McCartney et de Len Allen. Ça coûte environ 70 euros. C'est un très, très beau livre pour les passionnés des Beatles.
Eh ben, bravo. Merci beaucoup. C'est marrant comme il y a des titres qui reviennent quand même parce que dans votre petite liste, Nathalie Riis, vous aviez mis La Carte Postale d'Anne Berest et ça revient dans beaucoup de mails. Là, c'est Françoise qui nous dit très touchant, vraiment magnifique à lire.
Très belle enquête familiale, vraiment superbe. Et ben, qui a eu le prix Renaudot des lycéens et bravo Anne Berest.
Eh ben, écoutez, tant mieux pour Anne Berest. Tiens, moi, puisque j'y suis, alors, dans les romans que j'ai aimés, figurez-vous, moi, celui que j'ai préféré, c'est le Serge Chalandon ces derniers temps, donc je suis pas sûre que ce soit un peu lourd comme ça. Au moment de Noël, moi, il y en a un dont j'ai idée comme ça, qui est un roman graphique, pareil, qui est une vraie enquête, qui s'offre à votre compagnon, si vous êtes en couple hétéro, vraiment, ça s'appelle Les Contraceptés. Et c'est une enquête absolument géniale sur la contraception masculine, c'est drôle, c'est bien fichu, c'est vraiment une vraie enquête, et je suis en train d'essayer de retrouver l'autre auteur à part Stéphane Jourdain, parce que je m'en voudrais de l'oublier. Il s'appelle Guillaume Dabin, voilà, et on est ravis de en faire une petite publicité. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps, Vincent, de vous parler, sauf si vous nous promettez d'y aller très très vite. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Vincent.
Mais écoutez, merci pour votre émission qui est un régal. Alors très vite, Étienne Davodo, Le Droit du Sol, qui est une superbe promenade de Pêche-Merle, qui est une grotte préhistorique ornée dans le Lot. Qui est une des traces laissées par les hommes du néolithique et un auteur qui va jusqu'à Pêche-Merle, il part de Pêche-Merle, il va jusqu'à Bure dans la Meuse où des hommes modernes laissent une trace beaucoup moins drôle et c'est une promenade très poétique et très instructive et très édifiante surtout.
Eh ben merci beaucoup.
C'est un roman graphique hein, aussi.
Ouais, 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 très d'accord avec ce conseil. Ouais.
Ben voyez, quand on dit que les romans graphiques sont partout, c'est vraiment très impressionnant et c'est tant mieux si c'est une porte vers autre chose ou même d'ailleurs si on reste sur le roman graphique. Allez-y, Ilana.
Et on peut ajouter vraiment tout le monde peut ajouter, même si vous avez déjà acheté vos cadeaux, pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous pouvez ajouter L'année de la pensée magique de Joan Didion qui vient de disparaître.
Absolument.
Et le livre existe en poche. Et c'est une pure merveille.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci vraiment à tous. Merci énormément. Pour nous, c'est la pause. Figurez-vous que lundi, c'est Corinne Audouin qui prend la main et qui présentera le 18-20 du lundi au jeudi. Joyeux Noël, les amis. Merci beaucoup à l'équipe du 18-20. Merci à Mélissa Delman, à Adèle Domas à la programmation. Merci à Tristan Gratalon à la réalisation. On salue Clémentine Ducasse pour les semaines passées avec vous, avec nous. À l'année prochaine. Tout le monde masqué sûrement, mais content quand même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?